Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Extérieur Nuit.
Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Ouais, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
I'm a man! Well, nobody's perfect.
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, avec ou sans l'accent québécois, le titre de ce premier film sonne au moins aussi bien que le patronyme de sa réalisatrice, Ariane Louis XVI. Comme son nom l'indique, elle tord royalement le cou au cliché sur les buveurs de sang, mais aussi sur l'adolescence, également au cœur d'un autre premier film et teen movie ce soir, réalisé par le tout aussi bien nommé Sean Price Williams. Intitulé The Sweet East, c'est une variation sur Alice au pays des merveilles à travers une Amérique post-Trump pour le moins chaotique. Et puisqu'on parle de titre, interrogeons la traduction de Wicked Little Letter en Scandaleusement Vôtre, qui inscrit la dernière réalisation de la Britannique Téa Charrock dans une trilogie improvisée entre Dangereusement Vôtre, le James Bond, et Amicalement Vôtre, la série, pourquoi pas. À l'autre bout du spectre, Stéphane Brisé préfère aller à l'essentiel, son 12e film s'appelle Hors Saison, comme le titre d'un polar France Télé qu'il n'a probablement pas vu. Sobrement intitulé Shogun, le carton de ce début d'année sur Disney+, annonce lui aussi une couleur simple en reprenant le titre et le pitch d'une série des années 80, toutes deux basées sur un roman éponyme. Je critique, c'est le métier, mais Extérieur Nuit s'enregistre, à l'intérieur et le printemps venant bientôt de jour, hors sujet à défaut d'être hors saison, l'équipe s'évertue en tout cas à demeurer Scandaleusement Vôtre. Extérieur Nuit, c'est parti. Breaking news. Tu dodelines de la tête, Yuri.
Mais cette musique à chaque fois me met d'une telle bonne humeur.
Tu mets en joie.
Absolument.
Est-ce que le box-office de la semaine est lui aussi enthousiasmant ?
Bah, les gens ne sont pas beaucoup allés au cinéma quand même cette semaine, mais ils sont allés voir à peu près les mêmes trucs que la semaine dernière. Donc ils sont allés voir Dune, deuxième partie, qui est donc toujours en première position de ce box-office. Est-ce très étonnant ? En dessous, toujours ce challenger qui est donc le Une vie avec Anthony Hopkins, qui vraiment n'en démord pas, il reste là. En troisième position, ça c'est plutôt surprenant. Il reste encore demain, le film italien dont on vous a parlé la semaine dernière en mal, qui fait donc 145 000 entrées pour sa première semaine, ce qui pour un film italien absolument pas un gros succès avec un gros casting, avec des acteurs qu'on connaît, est quand même assez surprenant, c'est-à-dire qu'il y a une bonne promo, une bonne distribution. Scandaleusement Vôtre, dont tu as parlé dans ton intro, fait quant à lui 54 000 entrées seulement pour sa première semaine, ce qui est vraiment pas incroyable. On peut se réjouir que Bob Marley est à la 7e place du classement cette semaine, au-dessus toujours encore de Cocorico et de 14 jours pour aller mieux. Bref, vraiment, il y a une espèce de queue de peloton là qui va peut-être un peu disparaître au bout d'un moment. Et sachant que Anatomie d'une chute est toujours en salle et fait toujours 37 000 entrées cette semaine, donc on est sur une très très longue traîne pour le film de Justine Triet.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Laurent, toi, tu nous parles des films qui sont sortis aujourd'hui dans notre petite capitale. C'est le 14h de la semaine.
De oui, Paris. 14h de Paris, pas 14h seulement de la semaine de toute la France.
Juste de ce matin.
On a des scores étrangement assez bas, mais en même temps qui correspondent un peu à ce moment de creux finalement qu'on a dans l'année sur les sorties.
Il fait beau aussi.
Et il fait beau, c'est vrai. Le premier, c'est quand même Hors Saison, dont on vous parle aujourd'hui. Le dernier film de Stéphane Brisé, 853 entrées pour 20 copies, donc une moyenne de 43. Pas top, mais relativement honorable. Il est suivi d'assez loin par un film que je ne connais pas, qui fait un relativement beau démarrage quand même, parce qu'il fait 480, qui s'appelle Une famille, qui fait 491 entrées pour 8 copies seulement, donc une moyenne de 61, ce qui est assez élevé. Enfin, en troisième place, Bis Repetita, ce qui aurait été mieux qu'il soit en deuxième, enfin, qui fait 372 entrées pour 15 copies, donc une moyenne pas géniale de 25. C'est vrai que c'est certainement le beau temps qui a posé problème. J'ai aussi envie de vous parler d'un perdant de la semaine qui s'appelle Le Monde est à eux. Le Monde est peut-être à eux, mais pas les tops du box-office, parce qu'il ne fait que 14 entrées pour une copie, donc une moyenne de 14.
Ils sont restés entre
eux. Ce qui est pas si mal en fait, en réalité, pour un perdant de la semaine. C'est un documentaire qui parle de jeunes qui galèrent à l'école et on les aide à devenir des meilleurs élèves. Ça a l'air choupi et mignon et relativement intéressant. Donc, si c'est
ça aurait pu s'adresser à toi il y a quelques années.
Ça aurait dû s'adresser à moi il y a quelques années, mais je suis trop vieux. C'est déjà trop tard pour moi, mais peut-être qu'il y a encore des gens à sauver. Peut-être que ce documentaire le fera et peut-être qu'il faut aller le voir du coup.
Bah écoute, on encourage toujours à voir nos petits perdants de la semaine. Le premier film dont on vous parle ce soir, c'est donc Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Je ne m'en lasse pas. On écoute la bande-annonce.
Il n'y a plus de pochette.
Ouais, je sais, ta mère, il va tantôt.
C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
Pourquoi c'est moi qui t'ai allé lundi?
Bravo.
C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim.
L'ego, ça se développe. Tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil.
Félix, donc, vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Est-ce que le titre est le pitch?
Ouais, quasiment. Hein. Ça raconte l'histoire de Sacha, qui est une jeune vampire qui fête ses 63 ans, donc elle rentre dans l'adolescence. Et elle a malheureusement en fait trop d'empathie pour mordre et donc tuer des humains. Or, c'est indispensable à sa survie. Et du coup, elle se fait un peu juger sévère par sa famille pour ça. Et en fait, elle va rencontrer Paul, un espèce d'adolescent dépressif un peu suicidaire, qui rêverait que sa mort serve un peu à quelque chose. Et du coup, cet échange de bons procédés va en fait mener à une espèce d'épopée nocturne, parce que quasiment tout le film se passe en une nuit, pour réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil, parce que Sacha ne veut pas le tuer avant qu'il ait justement complété du coup ses dernières volontés. C'est vachement bien, vampire humaniste cherche suicidaire consentant, c'est malgré le titre qui est relativement long, mais qui est très rigolo, je trouve. C'est super parce que c'est un excellent teen movie, et je trouve que on va, en fait, il faut aller voir le film pour ça essentiellement avant de se dire qu'on va voir, enfin,
un film de vampire.
Un film de vampire, voilà, tout à fait, parce que le film utilise le genre et de manière générale les vampires de manière assez périphérique et je trouve assez pudique aussi, et alors que d'habitude ça m'énerve ce genre de démarche parce que je trouve que c'est un peu une arnaque, là je trouve que c'est super parce que je déteste les vampires. Mais en vrai j'aime pas beaucoup les films de vampires, je trouve ça assez lourdingue et old school et tout le délire gothique voilà, autour m'ennuie, et en fait je trouve que mine de rien, en en mettant justement un peu moins que ses prédécesseurs, elle le fait encore plus ressortir. Je trouve que les trouvailles pour ancrer quelque part justement les vampires dans le monde réel sont assez chouettes. C'est vraiment des problématiques très lambda de famille qui doit, je sais pas, aller faire les courses. Alors là, évidemment, ça va pas être des courses, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas du tout dans quelque chose de très baroque en fait, et quelque chose de très terre-à-terre et quotidien que je trouve vraiment super. Le seul petit truc qui m'a un petit peu gêné, c'est au début, je trouve que la tonalité en fait du film, qui est quand même très sur un ton comique assez burlesque et un petit peu dérangeante, enfin je trouve que pour rentrer dans le film c'est un peu genre oula ok, on est dans la famille Adams, on est chez Tim Burton, et moi c'est vrai que c'est pareil, je suis pas hyper fan de tout ça, surtout que en fait je trouve que quand tu dépeins un monde qui est extrêmement comique et assez absurde, quand t'essayes justement de le faire dérailler vers l'absurde, bah ça marche pas parce que le monde est déjà un peu absurde, donc je trouve qu'il y a un peu un contretemps qui fait que l'humour a un peu du mal à s'installer. Mais à partir du moment où le film du coup bascule vraiment dans le teen movie, qu'on rencontre évidemment le personnage de Paul et que les deux commencent à former un peu le duo qui va être hyper swag à la fin, bah, je trouve que d'un coup ça marche vraiment mieux parce qu'on a des vrais moments quand même dans un pesanteur, on a justement des thématiques évidemment qui sont là sur la dépression, sur les pensées suicidaires, mais qui sont pas du tout ostentatoires, juste c'est là, c'est posé dans le personnage, c'est lui en fait, et on va pas essayer de lui tirer un petit peu les vers du nez et le faire dialoguer sur sa condition. Donc ça je trouve ça super, il y a vraiment plein de trucs en périphérique qui sont très chouettes aussi, il a une relation avec sa mère qui est assez touchante je trouve, surtout que sa mère travaille de nuit parce qu'elle est infirmière, donc du coup il se voit pas beaucoup, et en même temps il y a tout un parallèle avec le vampire aussi qui est je trouve pertinent parce que encore une fois très discret. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un film qui est super, j'encourage tout le monde à aller le voir. Encore une fois, je trouve qu'en fait c'est un premier film qui a de la gueule et je trouve que ça se sent vraiment pas du tout pour le coup, et c'est un peu le film à brandir quand on t'explique que en fait les premiers films on peut leur excuser des petites erreurs, des petites maladresses. Non, là il y a du travail, ça se voit et c'est super cool. Il y a de la mise en scène, il y a une image qui est super chouette, il y a des comédiens qui sont hyper talentueux et des dialogues qui sont extrêmement bien écrits. Le seul petit truc aussi, c'est que je trouve que elle réussit pas complètement bien à gérer ses temps forts, c'est-à-dire que je trouve que il y a certaines scènes de bataille ou bon de bataille avec des guillemets qui sont un peu moins bien gérées que les temps faibles qu'elle arrive vraiment bien à travailler, parce que elle y a un timing comique, qu'elle a réussi à faire quelque chose avec vraiment pas, voilà, pas grand chose. Je trouve que dès que ça monte un petit peu en enjeu, là on sent que c'est un petit peu plus fragile, donc faudra travailler ça pour le deuxième film. Je prends pour je sais pas qui. Mais bon voilà, je trouve que la musique est super et je vous encourage juste à aller voir ça parce que c'est hyper rafraîchissant, que ça dure une heure et demie et qu'on voit pas le temps passer, donc vraiment courez-y.
Donc un nouveau teen movie québécois après le Falcon Lake.
C'est un peu, ouais.
De Charlotte Lebon, un peu dans la même lignée. Manon, toi, tu as découvert Vampire humaniste cherche suicidaire consentant à Venise. Le film t'avait plu aussi ?
Ouais, j'avais adoré. J'y avais été justement vraiment que pour son titre.
Vrai bel argument commercial. Hein.
Ouais. Franchement, c'était leur titre de travail. Enfin, c'est. Elle a d'abord eu cette idée de titre et ensuite elle a fait son scénario, mais elle a trop bien fait de le garder parce que ça marche hyper bien. Et ouais, moi j'ai adoré ce film. On parlait de Falcon Lake, les Québécois ils ont vraiment un truc avec les teen movies. Genre ils font. Alors c'est peut-être que ça qui nous arrive du Québec, ils font peut-être plein d'autres choses, mais je crois que c'est vraiment leur thème de prédilection de parler
de. Crazy de Jean-Marc Vallée.
De l'adolescence, ouais. Je me rappelle que Monia Choukri l'avait confirmé en interview, elle m'avait dit c'est vrai qu'au Québec on adore parler de la famille et de l'adolescence, et ils le font hyper bien. Et Falcon Lake l'avait fait très bien, c'est la même actrice, Sarah Monpetit. Et moi je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre ces deux-là, entre ces deux films, au-delà du fait qu'ils viennent du Québec, mais je trouve que sur la relation entre les deux héros, ça se ressent. Comme tu le disais, Félix, la réalisatrice et sa co-scénariste, elles reprennent, je trouve, vraiment le meilleur des films de vampires. Il y a un peu What We Do in the Shadow, il y a un peu Only Lovers Left Alive, mais c'est vraiment hyper bien disséminé. Il y a beaucoup du film de Anna Lily Amirpour, A Girl Walks Home Alone at Night. Il y a vraiment de ça, même juste le titre premier degré est hyper descriptif comme ça. Mais je trouve qu'elle se réapproprie ça hyper à leur sauce et c'est un film qui ressemble à aucun autre. Et elles ont cet univers de vampires qui vit dans un Québec moderne, mais c'est hyper cohérent. Enfin, tout s'imbrique très bien. Et puis, elle arrive à parler de tellement de thèmes dans ce film-là. Le suicide chez les adolescents, c'est quand même, vu par un prisme un peu de comédie, c'est quand même très rare. Ça parle un peu de harcèlement scolaire, ça parle de la fin de vie aussi, un peu du spécisme aussi, je pense. Enfin bref, de la charge mentale. Enfin, il y a vraiment plein de choses, tout ça dans un teen movie, mais tout est très bien dosé, tout est drôle, c'est malin, il y a plein d'humour noir. Et je pense que c'est aussi, notamment grâce, le duo fonctionne très bien, ils sont un peu gênants, un peu cringe tous les deux. Cringe. Mais tout autour, il y a plein de personnages secondaires qui sont super, avec des acteurs québécois qu'on a beaucoup vus, mais qui sont super aussi. Et je trouve que moi, je l'ai senti à l'avant. Enfin, je l'ai animé en avant-première, le film, et après le débat qu'on a eu avec le public, j'ai l'impression que chacun s'est réapproprié le truc. Enfin, chacun s'est approprié le film un peu à sa manière. Et je trouve que c'est ça qui prouve qu'il coche plein de cases de façon pertinente. Mais pour moi, c'est avant tout un hyper beau teen movie et un très beau film de coming of age. Parce qu'elle reprend aussi, donc elle reprend des codes du film de vampire, mais aussi pas mal de codes du teen movie. Il y a quand même, je trouve, t'as les cours de sport humiliants, il y a les populaires du collège et tout. Enfin, tout ça se retrouve, mais c'est bien fait. Puis c'est une hyper belle allégorie des premières fois, enfin de la première fois et tout. Enfin, je trouve que ça sert hyper bien ce propos-là. Et puis ouais, le gros challenge, c'est quand même d'avoir tourné quasiment tout le film de nuit, et franchement c'est hyper bien mis en scène. Enfin, elle s'en sert très bien, tous les jeux de lumière, enfin tout le travail sur la lumière est vraiment très réussi. Et ouais, c'est un excellent premier film.
Mais est-ce que tu partages tout cet enthousiasme autour de, je vais peut-être pas redire le titre 15 fois, mais Vampire humaniste
cherche solitaire, voilà.
Suicidaire.
On a dit juste vampire à la caisse et la fille a compris, et on s'est tous entendus là-dessus pour pas que ça dure trois plombes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé aussi, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. En fait, je trouve qu'il arrive vraiment à concilier un peu ces espèces de deux sphères, du film de vampire et du teen movie. Et j'ai trouvé, je pense que c'est comme Manon l'a dit, en fait, je pense que chacun un peu pioche un point d'intérêt. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé en fait dans ce film, c'est surtout le lien aux parents. Notamment parce que les parents ont vraiment une place quand même importante dans la narration, et c'est comment aussi ces parents apparaissent comme des figures aimantes, mais je trouve aussi complètement oppressantes, tout en voulant bien faire, parce que ça reste eux en fait qui poussent les deux jeunes à rentrer un peu dans le moule, dans les codes du coup normatifs qui leur permettent juste de survivre en fait aussi dans ce monde là donc que ça soit pour le personnage de Sarah Monpetit de devoir chasser, et pour l'autre de devoir genre sociabiliser et un peu se forcer à rentrer là-dedans. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, malgré du coup ce truc de vampire qui a autour, où du coup elle a réussi, je trouve, avec force en fait un peu à tout imbriquer pour quand même avoir un regard extrêmement juste aussi sur l'adolescence moderne que tout le monde un peu vit, que ce soit au Québec ou que ce soit en France. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement chouette en fait à regarder, vraiment sur l'adolescence. Après, moi je pense que j'ai aimé la séance en tant que telle. J'ai trouvé que c'était très drôle, que comme tu l'as dit, c'est extrêmement maîtrisé entre les temps forts, les temps un peu faibles, mais je pense qu'il m'en reste pas grand chose en fait. Et donc, en préparant un peu cette chronique, j'ai vraiment réfléchi à ce qui m'avait marqué, et du coup il y a ça. Il y a aussi, comme tu l'as dit, un peu le juste la mise en scène quand même, parce que c'est vraiment ce challenge de se dire que pendant une heure et demie on est complètement dans le noir, et c'est comment est-ce qu'on travaille à la fois avec les matières de la ville, avec les néons, avec le grain et avec aussi les différents appartements qui amènent parfois comme au tout début un peu ce truc Famille Adams, et d'autres fois un peu limite plus film un peu free à la volée dans des grands hangars avec extrêmement beaucoup de tableaux de l'art, etc., que je trouve intéressant. Mais en fait c'est un peu tout mine de rien pour moi, c'est que
tu restes un peu sur ta faim
complètement comme elle finalement. Il y a un peu le ventre qui gargouille tout du long, et il y a aussi un travail du son, ça on en a pas parlé, mais qui est quand même extrêmement bien fait. Je pense notamment à une espèce de scène un peu comme dans un hangar géant où elle siffle, et où du coup c'est comment est-ce qu'ils, leur première rencontre c'est vraiment fait avec le son, sans se voir, et du coup ils savent pas qu'ils sont l'un par, mais ils se sentent attirés l'un par l'autre, et ça je trouve que c'est extrêmement bien fait dans cette espèce de rencontre, et aussi dans cette histoire en fait de ces deux un peu weirdos qui se retrouvent côte à côte et qui vivent mine de rien une assez belle histoire. Mais je crois que c'est un peu tout pour moi en fait. J'ai adoré découvrir Sarah Montpetit, parce que contrairement à vous je n'ai pas vu Falcon Lake, donc c'était la première fois que je la voyais à l'écran, et ça m'a donné envie de découvrir Falcon Lake pour plus la voir. Ça a été vraiment mon point d'accroche, mais c'est vrai que je dirais que c'est tout. C'est que c'est un film qui pour moi est complètement maîtrisé. Je trouve que la réalisatrice, comme tu l'as dit en fait, arrive à faire un premier film qui tient complètement la route. Ça m'a fait plaisir de le regarder, mais je m'arrêterai là, parce que j'ai pas ressenti autre chose de plus que l'appréciation sur le moment T, et je pense que d'ici deux jours je m'en souviendrai plus spécialement, et c'est pas forcément un film que je recommanderais non plus, à part pour le côté un peu marrant et maîtrisé encore une fois de voir un bon film. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal moi à aller au-delà de
l'objet ouais, film agréable sûr, quoi. Mais oubliable,
ouais, exactement.
Donc dispensable pour toi Eman,
complètement.
Yuri, la quatrième voix ce soir autour de Vampire.
Ouais. Alors moi, c'est quand même probablement le meilleur film que j'ai vu cette année, je crois. Hein. Donc, je pose le truc.
Il y a un glaçoir quand même. Hein
non, oui, je l'ai vu l'année dernière, celui-là, par ailleurs. Mais je pense que film vu en 2024, pour l'instant, c'est un des meilleurs. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le genre de film qui me rappelle pourquoi j'aime aller au cinéma, tout simplement. Il y a un côté où, en fait, il y a un peu tout dans ce film. Il y a effectivement un très bon scénario, des excellents dialogues, une intelligence de choix en fait à chaque cadre, à chaque scène, à chaque séquence, à chaque personnage, comment ils vont intervenir, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et moi, en fait, c'est cette intelligence-là qui m'a énormément plu. Et justement, au-delà de faire un film, enfin, elle aurait pu choisir de faire un film beaucoup plus justement au premier degré, des vampires, un truc beaucoup plus baroque, un peu beaucoup plus sérieux. Et en fait, cette légèreté apparente cache quand même, je trouve, une espèce de noirceur, et les deux arrivent à cohabiter d'une manière que j'ai rarement vue en fait. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, dans le sens où moi ça m'a un peu fait penser à End of the Fucking World, ce genre de choses. C'est vraiment ce genre de film qui arrive à allier vraiment, ou même Moonrise Kingdom de Wes Anderson dans la même veine quoi, qui arrive à allier une sorte de noirceur adolescente assez hard, et en même temps une forme de légèreté, une forme d'humour et une forme de vraiment d'intelligence et de force et de délicatesse qui moi m'a vraiment embarqué. Moi, contrairement à toi, j'étais assez pris au début, le côté Famille Adams gothique baroque, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Je dis ah oui, ok, elle va là dedans et en même temps je trouve c'est bien, parce que ça pose vraiment le truc de vampire, le truc de, ils font super peur, et après en fait on va comprendre que non, c'est un peu une famille comme les autres, et les problématiques qui la traversent. Moi je trouve effectivement le personnage du père est incroyable, parce qu'il est il est tiraillé entre à la fois le besoin, que en fait le désir que sa fille ne meure pas tout simplement, et en fait l'amour qu'il a pour elle de ne pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Et tout ça, je trouve, se marie extrêmement bien dans un projet qui aurait pu être super casse-gueule, mais vraiment il y a une intelligence de choix, et chaque choix qu'elle fait ou presque paye, et il marche. Et je trouve que c'est rare en fait de voir effectivement un film où la cinéaste réussit quasiment tous les paris qu'elle se pose au début de son film, et ça je trouve c'est vraiment à saluer. Et vraiment allez-y, ne serait-ce que pour la scène d'écoute de la chanson autour du vinyle, qui est extraordinaire, qui quand elle arrive en fait elle est toute simple, elle est pas du tout drôle, elle est toute bête, c'est un cadre, ça bouge pas, et c'est deux personnes qui écoutent de la musique, et c'est ce que vous verrez de plus beau au cinéma cette semaine, je pense.
Bon, il y a un gros coup de cœur pour ce vampire humaniste cherche suicidaire consentant, et on suivra donc les prochaines réalisations de Ariane Louis XVI, nouvelle réalisatrice québécoise. On va maintenant s'intéresser au 12e film déjà de Stéphane Brisé, ça s'appelle Hors saison.
Salut.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi toi?
Comment ça, qu'est-ce que je fais?
Dans la vie.
Je suis comédien.
Tu vas, c'est trop dur.
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième?
Tu vois, le dossier classé.
Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus, en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien, en fait.
Un message pour vous a été déposé à la réception.
Allô ?
Allô, Alice ?
J'étais pas sûre de te contacter.
Le dernier film de Stéphane Brisé, c'était déjà il y a 3 ans, j'ai l'impression qu'il en sort un par an, mais non. C'était L'Autre Monde, je crois. Et avant, évidemment, on avait eu... En guerre, La Loi du Marché et bien d'autres. Romane, qu'est-ce qu'il raconte ce hors saison ?
Eh bien, on l'a un petit peu entendu dans la bande-annonce. Ça va raconter l'arrivée de Mathieu, qui est donc un acteur réputé, mais aussi dépressif.
Interprété par Guillaume Canet dans son propre rôle.
Fait, qui vient globalement de lâcher en fait une pièce de théâtre pour aller s'isoler donc quelque part en Bretagne, chez Thalasso. Et il va retrouver Alice, qui est une prof de piano avec qui il a été 15 ans plus tôt. Globalement, c'est assez simple en fait, comme pitch, mais d'ailleurs l'histoire du film est assez simple. Moi, je suis pas du tout une grande connaisseuse du cinéma de Stéphane Brisé, mais ça m'a quand même étonnée de voir son nom justement sur l'affiche d'une espèce de une sorte de mélodrame en fait, surtout à l'allure d'une espèce de longue chronique, puisque je voyais de nom et un petit peu comme ça la filmographie de Stéphane Brisé, donc ça a un peu éveillé ma curiosité.
Des films sociaux assez engagés.
Ouais, complètement. Qui ont l'air d'avoir rien à voir. Voilà, j'y suis allée par curiosité voir ce film et en fait j'ai été assez surprise parce que du coup je m'attendais pas du tout à ce que le film soit d'une part drôle puisque il y a énormément de scènes qui sont, je trouve, en parfait équilibre entre quelque chose de drôle et de touchant, et c'est à la fois grâce à une inventivité dans certaines scènes avec un espèce de décalage humoristique puisqu'on a un Guillaume Canet qui fait des exercices de respiration sur une plage, enfin, c'est drôle déjà à part entière, ou alors il essaie de choper son téléphone en pleine séance de relaxation, donc c'est vraiment des petites scènes comme ça assez, assez marrantes, mais aussi je trouve grâce à la mise en scène que personnellement j'ai beaucoup aimé, en fait je pense que c'est le point principal qui fait que j'ai réussi à m'accrocher au film tout du long parce qu'on va nous filmer un Guillaume Canet dans un environnement qui est complètement improbable, avec des plans larges, des plans fixes, hyper symétriques, qui en fait révèle, je trouve, une énorme solitude, une énorme détresse. Ici encore, c'est toujours un espèce d'équilibre entre le pathétique et quelque chose de beaucoup plus tendre, et en fait je trouve qu'il y a un espèce de décalage mais très travaillé à la mise en scène, qui est presque un peu Jacques Tati, mais c'est beaucoup plus documentaire presque, je dirais. Donc ça crée quelque chose d'assez singulier et qui, voilà, moi m'a ému pendant le film. Après, voilà, maintenant que j'ai dit ça, le film est pas hyper bien rythmé, il a quand même beaucoup de défauts, il a des longueurs et notamment, je trouve, une perte d'intérêt parce qu'il va prendre une espèce de tournure d'une comédie romantique sans l'assumer complètement, malheureusement, avec le retour de cette femme qu'il a connue auparavant, et je trouve que le duo fonctionne très bien, mais malheureusement j'ai l'impression que le film n'a pas du tout réussi à faire une espèce de transition fluide dans ces deux histoires qui racontent d'un côté le Mathieu dépressif et l'histoire d'amour. C'est comme s'il s'éparpillait au fur et à mesure que le film a lieu, quoi. Donc j'ai beaucoup moins apprécié la deuxième partie qui, je trouve, se concentre beaucoup plus là-dessus. Idem, il y a une espèce de scène avec une grand-mère qui est extrêmement touchante, mais qui vraiment sort un peu de nulle part, qui nous casse le rythme et ça disperse le film énormément. Voilà, mine de rien, je trouve que encore une fois, c'est un film qui fonctionne principalement pour son atmosphère, je dirais, et voilà, qui, moi, m'a embarqué. Ces deux personnages aussi qui sont très bien écrits, je les trouve assez complexes, avec quand même une alchimie entre les deux qui fonctionne, à laquelle on croit, et surtout une tendresse qui traverse tout le film dans sa drôlerie, que ce soit dans les scènes, les dialogues et encore une fois la mise en scène, comme j'ai dit, que j'ai trouvé très pertinente.
Manon, est-ce que tu connais un peu mieux le cinéma de Stéphane Brisé ? Pas tant.
Non, et je. Non. Bon, bah, j'ai un peu d'a priori aussi sur son cinéma.
Mais tu as été voir hors saison quand
ouais,
même.
Ouais, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans. Enfin, si, je me suis retrouvée dans cette galère à cause de Romane, j'avoue. Mais en fait, j'ai exactement les mêmes choses à dire sur le film, mais du coup, moi, mon avis est assez négatif. Parce que au début, vraiment, j'y croyais à fond, parce qu'effectivement, la première demi-heure, trois quarts d'heure du film est vraiment bien. La mise en scène, l'univers est super singulier. Je trouve que ce jeu avec cet hôtel qui est un peu à la fois luxe mais un peu toc et tout, enfin, ça marche vraiment bien. Guillaume Canet, il se joue hyper bien de lui. Enfin, moi, ses rôles d'acteur déprimé qui sont très, j'imagine, autobiographiques, j'adore, je le trouve hyper bon là-dedans. Il fait rire, il est pathétique, enfin, ça lui va hyper bien. Et en fait, le début du film est comme un film un peu dans le film, et c'est plein de successions comme ça, de petites scènes qui sont hyper drôles, hyper grinçantes. Ces retrouvailles avec Alice, elles sont aussi effectivement très jolies, très douces. Cette actrice, Alba Rohrwacker, est vraiment incroyable. Elle est hyper lumineuse. Enfin, toute sa palette d'émotions et toute sa palette de ressentis, je les trouve hyper justes. Et vraiment, ouais, les deux sœurs Rohrwacker, elles sont vraiment très talentueuses. Mais malheureusement, voilà, passé ces retrouvailles, je trouve qu'on tombe dans un espèce de creux de la vague et en fait on ressort jamais de ce creux de la vague, enfin on s'ennuie. Il n'y a plus d'enjeu, je trouve que la matière des retrouvailles elle est vraiment plus assez forte pour porter, enfin leurs retrouvailles sont jolies mais après tout se délite et puis du coup il essaie d'y mettre des comme plein de sous-intrigues pour renourrir un peu son scénario, notamment cette amitié avec cette femme qu'elle a rencontrée dans un EHPAD qui va se marier à une femme dont elle est très amoureuse après avoir passé des décennies avec son mari qu'elle n'aimait pas. Je sais pas si c'est une actrice ou pas, mais elle est hyper touchante, cette petite mamie. Mais voilà, ça, c'est une vidéo filmée par le personnage d'Alice de un quart d'heure qui vient s'insérer dans le film. Ça casse complètement le rythme, ça casse complètement le ton. Et je me demande vraiment ce que ça vient faire là, à part nourrir un scénario trop léger. Pareil pour cette scène de dîner interminable avec des gens qui imitent des cris d'oiseaux. Enfin, vraiment, moi j'ai complètement décroché, je n'ai pas compris ce que ça venait faire là. Et en fait, voilà, même si les intentions sont bonnes, ça reste un film français de Stéphane Brisé avec une BO de Vincent Delerme avec Guillaume Canet en acteur principal. Voilà.
J'aime bien cette conclusion. Très bien, pour ce hors saison, on va maintenant parler de Scandaleusement Vôtre de Théa Charoque. On écoute l'abondance.
Dear Edith. You foxy ass old whore. You really are a tricksy old fucker. And you're a sad, stinky bitch.
In the end, I think it's just jealousy.
I think we know who it is.
I'll get you in the ball sack!
I didn't do it.
I believe we may be charging an innocent.
A woman police officer.
Donc Scandaleusement Vôtre, titre absolument scandaleux, Laurent, je pense qu'on est d'accord.
Je pense pire titre de film de 2024 pour le moment, clairement.
Bah on a cette semaine, on a le meilleur voilà et le pire titre, je pense, de 2024.
Que font les distributeurs? Je ne comprends pas, c'est Studio Canal hein, en France, merci à eux.
Mais je suppose la question de savoir si c'était une espèce de logique effectivement avec Dangereusement Vôtre et Amicalement Vôtre,
je préfère ne pas le savoir.
Déjà, je vois vraiment pas le rapport et ensuite ça veut rien dire, Scandaleusement Vôtre, mais je te laisse pitcher le film.
Et le titre anglais est vachement mieux. Ça raconte l'histoire de deux femmes en fait qui vivent dans une petite ville un peu perdue en Angleterre au début des années 20 sur Littlehampton, oui en effet, qui est une ville dans le Sussex, pas très loin de Southampton du coup. Si mais on peut faire les connards, mais on peut parler de cinéma aussi. Ça raconte l'histoire donc de ces deux femmes, l'une qui reçoit des lettres d'insultes très énervé quand même, surtout pour les petites villes d'Angleterre du début des années 20 qui sont quand même censées être très propres et très propres sur elles. Et cette dame qui est jouée par Olivia Colman, qui est une vieille fille, comme on dirait, donc c'est-à-dire célibataire, vivant avec ses parents, et dont elle accuse en fait la voisine, qui est jouée par l'actrice dont Jessie Buckley, qui est super dans le film, qu'on accuse en fait d'être l'auteur de ces lettres, alors qu'elle affirme à corps et à cri que ce n'est pas elle. Et donc on va voir comment cette histoire de corbeau finalement va se dévoiler. C'est un film qui sur le papier quand même sent lourdement le film de vieux et dans l'absolu c'est pas complètement faux, mais c'est pas pour ça que c'est un problème quand ils sont bons, et celui-là fait partie, je dirais, peut-être de la rare catégorie des bons films de vieux, parce qu'on reste quand même sur quelque chose de très balisé, très connu, très classique. Ça va pas révolutionner le cinéma, il se passe rien de visuellement très très intéressant, il n'y a pas non plus de grand tremblement en fait, ni de révolution particulière. En revanche, on a un casting brillant avec surtout des comédiennes en réalité, parce qu'il y a très très peu de comédiens, mais c'est quand même essentiellement un film féminin et c'est pas plus mal, mais qui est parfait à chaque fois dans son rôle respectif, où on a vraiment quand même des comédiennes de très grand talent, avec d'excellents dialogues, avec une histoire bien construite, plutôt maline, qui arrive à faire en fait ce que finalement peu de films historiques arrivent à faire, et je trouve le fait très bien, donc faire en gros réussir à prendre ce contexte historique et à le faire dialoguer avec des choses qui peuvent dire quelque chose de nous aujourd'hui, et je trouve qu'il y a une vraie réussite là-dedans pour moi le film est vraiment conçu comme une charge contre les gens qui viendraient dire que finalement le féminisme peut-être que ça suffit ou que finalement le droit des hommes devrait être un peu supérieur, enfin les divers masculins ou les divers cons, bref, qui pensent ce genre de trucs. Ça, je trouve que ça, le film a le bénéfice de montrer vraiment ce que ça veut dire une société patriarcale, vraiment au sens hardcore on l'entend, et il y a des moments d'une très grande violence, mais toujours avec voilà cette petite pointe d'humour, cette pointe de tragédie quand quand même très anglaise, qui arrive toujours en fait à faire basculer le film toujours dans la comédie. Et de ce point de vue-là, vraiment, il y a une vraie maîtrise, je trouve, à la fois dans l'écriture, dans les personnages et dans les situations. Donc, je pense quand même que c'est un film qui est surtout conçu pour un public voilà d'un certain âge, ou alors un public qui connaît bien l'Angleterre, parce que je pense que c'est un film qui nécessite quand même de comprendre un peu. Le niveau de transgression qu'implique d'envoyer ce niveau d'insulte à des gens, surtout à l'époque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît ridicule en réalité. Enfin, c'est pas méchant, c'est pas des lettres de menace, c'est des lettres d'insulte, ce qui est un peu bizarre.
C'est Twitter quoi.
C'est un peu voilà, c'est un peu pour nous ça nous paraît assez simple, pour eux à l'époque c'est très très violent. Et je trouve que ouais, le film réussit à peu près tout ce qu'il fait. Il a pas des ambitions énormes. Mais comme il réussit à peu près tout ce qu'il fait, je trouve que c'est quand même vraiment plutôt bien, d'autant que bon, en plus si on aime bien les acteurs, enfin les actrices en l'occurrence, c'est un super film d'actrice et pour du coup de ce point de vue là c'est assez brillant. Donc non, c'est un peu une surprise, moi je m'attendais pas à voir un truc aussi bien pour vraiment un peu la comédie anglaise de vieux, un peu de base du moment. Et ben celle-là elle est vraiment
belle
plutôt
surprise.
Pas mal, donc belle surprise à conseiller à vos parents
et à ne pas réserver aux vieilles anglaises dont tu ne fais pas encore partie, Roman.
Pas encore, à mon grand regret. Non, moi, effectivement, vous me dites un film avec Olivia Colman et Jesse Buckley qui s'insultent et qui disent des gros mots pendant 1h40, j'y vais sans hésiter.
Sauf que là, cette fois, c'est bien.
Moi, de toute façon, même si c'était nul, j'y serais allée. En tout cas, effectivement, j'ai pas été déçue puisque j'y suis allée un matin et que du coup, ça m'a permis de me réveiller avec des insultes comme Sad Stinky Bitch prononcées par Olivia Colman. Plus sérieusement, moi, je suis totalement d'accord avec Laurent. Je trouve le film globalement réjouissant, même s'il y a des aspects qui reste assez bancal, le film reste quand même drôlement anglais, extrêmement bien interprété, très malin pour nous raconter dans le fond, c'est ce que tu disais, une société anglaise qui est maladivement patriarcale et pour nous dire aussi que parfois ça fait du bien d'être un peu insolent, surtout quand on est une femme à qui on répète que ça ne se fait pas. Moi j'ai adoré effectivement retrouver des acteurs, des actrices que j'aime tout particulièrement qui viennent de séries comme Killing Eve ou encore Fleabag, mais aussi Jessie Buckley qui est absolument brillante en comédie.
La crème des Anglais.
La crème, bah, elle est irlandaise elle-même.
Irlandaise, elle, pour le coup.
Évidemment,
ouais.
Mais elle fait que des films anglais, elle leur prête leur talent. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi que le film, ce que tu disais que c'était sur deux femmes, moi, je trouve que c'est presque un film qui s'articule autour de trois femmes qui vont être liées par ces lettres, puisqu'on a, du coup, Edith qui les reçoit, Rose qui est accusée, mais aussi Women Police Officer Moss, qui est obligée de dire tout cet intitulé pour se présenter quand elle, en fait, elle est juste policière, quoi, mais que c'est très rare à l'époque, et donc elle va enquêter sur cette affaire. Et encore une fois, on s'aperçoit rapidement qu'en fait, elles sont juste toutes les trois enfermées dans une forme de patriarcat assez vénère. Edith qui est coincée chez ses parents, nous avons enfermé en fait par son père. Rose qui est accusée à tort parce qu'elle est juste libre et que ça arrange tout le monde de la foutre en prison. Et Moss qui est juste humiliée, qui n'a aucune responsabilité à part faire le thé dans la gendarmerie. Donc en fait c'est un espèce de scénario que je trouve hyper bien articulé autour de ce trio qui fonctionne extrêmement bien. Même s'il y a quelques clichés, des passages dont je trouve la crédibilité est un peu douteuse parfois, notamment la fin, je trouve qu'on a un peu des personnages secondaires féminins qui apparaissent, qui débarquent un peu quand ça arrange l'intrigue. Mais en fait, j'avoue que le simple sourire narquois d'Olivia Colman et ses yeux qui s'éclairent quand elle dit fuck, ou juste l'humour anglais débile d'un policier qui s'apprête à toquer avec son poing sur une porte et qui en fait finit par toquer avec juste la poignée parce que c'est comme ça que ça se fait dans les années 20 en Angleterre, je trouve que c'est de l'humour qui arrive à me convaincre complètement. Encore une fois, je trouve que le scénario est assez malin dans un espèce de film que tu pourrais dire que tu sais ce que tu vas voir en y allant et que ça va être un peu attendu. Et moi, j'ai été complètement surprise, notamment par cette espèce de petit twist qui arrive un peu en plein milieu. Tu peux le comprendre avant, plus ou moins.
Je trouve que l'identité finalement de la personne qui écrit les trucs est assez, pour moi, assez cousu de fil blanc.
Oui, mais t'as un truc.
Mais à la fin, c'est plus intelligent que ça,
voilà,
c'est mieux
ça.
Fait que ça.
C'est ça. Donc, voilà, moi, je recommande plutôt. Scandaleusement vôtre pour cette actrice et les scènes juste d'humour quoi.
Wicked Little Letters
ouais,
en anglais, ce qui est quand même vraiment beaucoup mieux.
Ouais, mais malheureusement, si on dit ça, nos spectateurs ne vont pas se repérer dans les cinémas.
Bah écoute, tant pis pour eux. Peut-être qu'ils méritent de mourir dans le cinéma. Pas pouvoir se repérer. Peut-être.
T'as jamais trouvé la sortie, ni le titre en entier. On parlait d'un teen movie au début de l'émission. On va parler d'un autre teen movie. C'est The Sweet East de Sean Price Williams. Non, mais vraiment, on a que des noms de réalisateurs et de réalisatrices incroyables cette semaine. On écoute la fin d'annonce.
Hey, oh my god, oh my god. We're not a threat. Don't look at us like that. Sorry, I'm.
Yeah, no.
Excuse me? You sure you're in the right place?
feel certain I've never seen you at one of these affairs before.
Little Bo Peep has lost her way.
I don't think she'd be scared. I think she's really braver than you think.
The election was a pre-scripted puppet show, just like every year.
Alban, donc deuxième teen movie et deuxième premier film de ce programme de Sweetest, c'est décrit comme un Alice au pays des merveilles, mais chez l'Amérique post-Trump.
C'est
Est-ce
ça.
Que c'est juste ?
C'est oui, il y a du, en tout cas, il y a du vrai dedans. Il y a du vrai là-dedans. C'est pas que ça.
Qui fugue.
C'est pas que ça, effectivement. C'est le premier long métrage de Sean Prince Williams, qui est un chef-op. Qui est notamment le chef-op de toute cette génération de cinéastes new-yorkais, notamment des frères Safdie, Ronald Bronstein, Alex Ross Perry notamment, et aussi chef-op d'un film catastrophique qu'on a vu à Cannes il y a deux ans qui s'appelait Funny Pages, Félix s'en souvient. Voilà. Donc il a pas fait des belles choses. Et en même et entre les vagues aussi film français, je sais pas comment
que,
il était
que
là.
Que tu avais adoré à Cannes il y a deux ans.
J'avais beaucoup aimé, ouais. Et là en fait, il revient avec enfin il vient, il arrive même parce que c'est un premier long-métrage avec ce film. L'actrice principale dont, qui s'appelle Liliane en fait dans le film, c'est aide-moi s'il te plaît. Pardon.
L'actrice, tu veux dire
l'actrice, ouais, l'actrice.
Tanya Ryder.
Et en gros, j'ai complètement
j'avais même pas compris la question, je pouvais pas aider.
Alors, Tanya Ryder, et en fait, elle est en voyage scolaire aux États-Unis, elle décide de fuguer. Et dans cette fugue, elle va rencontrer plusieurs personnages et plusieurs histoires, plusieurs segments dans l'histoire. Elle va être un coup avec Simon Rex. Je ne sais pas si je dévoile l'intrigue, voilà, qui a un peu des opinions politiques cheloues. Elle va rencontrer
chelou Obama, non, il me semble, parce qu'il est quand même.
Oui, bien sûr. Ayo Edibiri, qui elle est une, va jouer le rôle d'une cinéaste qui va l'embaucher pour tourner un film. Voilà, plein d'aventures rocambolesques. C'est un film qui est assez intéressant dans sa mise en scène et dans la manière dont il va dévoiler son récit. C'est-à-dire que effectivement, on passe d'une histoire à une autre sans forcément qu'il y ait de lien entre les trois. Sauf par de rares moments qui, moi, m'ont beaucoup plu, justement, quand il y a une histoire qui revient, en fait, dans un autre segment de l'histoire, quand ça intercède, en fait, à l'histoire. Ça, c'est des points très positifs, même sur le regard qui porte à la fois sur justement, cette vision de l'Amérique post-Trump, même si elle reste très théorique, mais je vais y revenir après. Je trouve ça intéressant, en fait, dans le propos, dans le geste de cinéma, pas forcément dans sa réalisation. Il y a des problèmes de je pense qu'il y a des problèmes d'écriture à la fois scénaristique mais surtout un problème d'écriture des personnages, c'est-à-dire que moi j'aime plutôt l'actrice principale, je trouve qu'elle est assez bonne dans ce qu'elle fait mais malheureusement je trouve que sa meilleure scène c'est quand elle chante au début du film pendant le générique. Je trouve que c'est une scène qui est vraiment magnifique et en plus il y a un regard spectateur, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont plein de petites touches comme ça que Sean Prince Williams maîtrise vraiment bien et dans ce cas-là on est embarqué avec lui dans le film. Le problème c'est que il écrit ses personnages de manière très stéréotypée, en fait c'est des poncifs sur l'adolescence, sur ce qu'on connaît de comment on devient subversif quand on est ado, il faut aller dans des squats, il faut traîner avec des punks, il faut fumer du shit. Enfin, en fait, c'est un film qu'on a vu mille fois sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est dommage de toujours décrire une adolescence de la même manière. Et ça aurait pu prendre des chemins vraiment différents à chaque fois. Je parle de l'héroïne. Ensuite, sur ce que ça dit dans les scènes et dans les segments, là, c'est différent. Je trouve que, par exemple, le personnage de Simon Rex, ce que je trouve qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à la fois, on sait que ce mec est une enflure avec des idées complètement... nauséabonde, et en même temps il arrive à faire quelque chose de joli de ce segment là, les faire se rencontrer, à faire des scènes presque loufoques au bord de l'eau avec une sorte de petit parapluie, et en fait on est embarqué, on est presque touché par ce segment, on en oublie en fait les enjeux du film. Pareil pour le second segment, là, ce qu'elle veut tourner un film où on est pris par son jeu dans le film, à l'intérieur du film. Je trouve que c'est assez beau et c'est aussi, ça joue beaucoup sur la performance de l'actrice. Et voilà, ensuite, moi j'ai un peu plus un problème avec le dernier segment où elle est enfermée en gros dans une sorte de maison pour échapper à une sorte de massacre qui a eu lieu entre des néo-nazis et un tournage. Bref,
ça devient Green Room.
Et voilà, et ensuite, le problème c'est que je sais pas vraiment ce que le film veut nous montrer et je trouve que le message de fin, sans le dévoiler, résume un petit peu le propos et le regard qu'il porte sur son film et ce qu'il veut dire à travers ça. Et je trouve que c'est dommage parce que le film, je pense, beaucoup plus de choses à dire s'il avait pris le temps de les développer. Et voilà, cantonner ce film à une sorte de portrait assez froid d'une Amérique post-Trump, je trouve que c'est... Voilà, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, si c'est juste ça, c'est dommage. Parce que il y a quand même des idées de cinéma, notamment dans la manière dont est structuré le récit, où parfois c'est simplement une scène va se couper avec une voiture qui passe, et c'est maîtrisé, en fait, c'est rythmé. Il y a un montage qui est assez hallucinant dans ce film-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment positif. Après, pour le reste, pour la vision idéologique, pour la vision politique, je trouve ça, voilà, c'est presque adolescent comme son héroïne, quoi, par moment.
Je vois Imen qui sourit. Alors toi, t'étais la plus tiède sur Vampire humaniste.
Tout à fait, j'ai complètement séché, j'avais pas grand chose à dire. Autant et là, j'ai trouvé ça.
Et ouais. Pourtant, voilà, ce teen movie là,
là t'as parlé. Je vais reprendre ce que Yuri a dit. Pour moi, là, pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu de 2024. Super. Je suis sincèrement désolée. Alban, non, j'ai absolument adoré ce que j'ai vu. Enfin, c'est qu'il y a un truc où je me suis dit, bah enfin, là, je vois du cinéma, et en tout cas, du cinéma qui, moi, me parle et qui répond à mes attentes spectatorielles. Je trouve que c'est un film qui est, genre, absolument halluciné, et donc hallucinant, en fait, à se prendre en pleine face, parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est une liberté totale que j'ai pas vue moi depuis longtemps et qui me parle complètement dans ce truc à la fois extrêmement expérimental, notamment dans sa mise en scène, dans son montage. On change de médium un peu tout le temps, c'est qu'il y a autant du 16mm que des plans à moitié filmés à l'iPhone, enfin on change tout le temps de point de vue en fait aussi sur cette fille.
Format d'image.
Ouais, complètement en fonction des histoires, et ça je trouve que c'est extrêmement bien fait.
C'est vrai conseil Alban.
C'est vrai, mais ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas habité par un propos, mais effectivement, c'est des effets de style.
Franchement, oui, peut-être. Peut-être, mais moi je trouve que ça marche complètement et que du coup ça me fait rentrer instantanément dans quelque chose auquel en fait je crois, alors que c'est complètement fou, c'est complètement absurde. C'est comme tu l'as dit, moi je le vois pas tant comme un teen movie que comme un espèce juste de conte en fait, de cette espèce de fille qui se retrouve à naviguer dans plein de classes sociales, dans plein de milieux différents, que j'ai trouvé vraiment très bien. Moi, ce qui m'a surtout intéressée en fait, parce que il y a le propos bien entendu politique de ce que elle voit, c'est un peu comme Poor Things, mine de rien, c'est un peu ce truc de cette fille qui est mise dans un monde
pauvre créature.
Dans un monde qu'elle connaît pas et qui du coup qui se retrouve spectatrice un peu de des différents codes, de différentes choses, de comment est-ce que les gens interagissent entre eux, et voilà, je trouve qu'il y a de ça qui est extrêmement bien. Et moi, ce qui m'a surtout intéressée, c'est le propos sur la beauté en fait, parce que je trouve que tout le film tourne beaucoup autour de ça en fait. C'est sur qu'est-ce qu'est le privilège de la beauté. Alors on va se dire que la beauté se niche dans le regard de celui qui regarde. Là en soi, c'est une actrice qui est genre canoniquement extrêmement parfaite, et en fait ça joue complètement, et c'est pour ça aussi que les histoires se font, parce qu'en fait elle est extrêmement belle, et que du coup les hommes se retrouvent un peu à avoir une confiance en elle extrême, alors qu'en fait on ne sait pas vraiment qui est cette femme, et qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment qui elle est, mais ils l'acceptent, ils l'entretiennent, elle utilise ça, elle est complètement consciente de ce qu'elle fait, et ça je trouve ça absolument génial à voir. Et c'est aussi un film que je trouve brillant sur la projection en fait que les autres font sur cette fille, parce qu'en fait elle est complètement... Pardon, je suis hyper émue, parce que moi je trouve que ce film est extraordinaire. Enfin, c'est assez dur d'en parler, mais c'est juste qu'elle est là, et du coup tout le monde projette en fait à la fois son désir, à la fois son fantasme, à la fois ce qu'il veut, et elle l'accepte, parce que c'est ce que tu... Je sais pas si tu l'as dit vraiment comme ça, mais c'est juste qu'en fait on sait pas qui est cette fille, et c'est ça qui peut aussi être peut-être un peu dur de rentrer dans ce film, c'est qu'on sait pas d'où elle sort. On sait qu'elle s'appelle Liliane, mais il y a un moment où elle se fait appeler Annabelle, on sait pas vraiment quelle est son identité, on sait pas vraiment d'où elle vient, qui est sa famille, on la voit juste en fait sur un instant T, et on la voit se servir et manipuler les autres en fait en live, et du coup c'est extrêmement jouissif à voir. Et je trouve que c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement bien écrit et vraiment passionnant dans toutes les expressions qu'elle emploie, toutes les mimiques qu'elle vole, qu'on voit. J'ai adoré aussi ce côté, on se balade en fait de personnage en personnage, on sait pas vraiment dans quelle époque on est non plus. Cette réalisatrice qui arrive, elle est habillée années 70, alors qu'en face, elle va complètement être choquée quand Annabelle va lui dire qu'elle n'a pas de téléphone portable. Ça parle aussi un peu de cette espèce de société du spectacle où on joue absolument tout, on a besoin de pas tant être, mais juste de montrer pour les autres, alors qu'elle, elle joue pas ce jeu-là, et je trouve ça absolument génial. Il y a aussi juste l'interprétation en fait, que j'ai trouvé vraiment très bien de cette comédienne, et de tous les rôles secondaires aussi. C'est ça que je trouve assez brillant. Enfin, comment dire, moi je trouve que c'est un film qui arrive en fait à combiner à la fois un scénario qui pour moi se tient complètement dans ce truc halluciné que j'ai accepté. En fait, j'ai accepté de rentrer dedans, j'ai accepté d'y croire, et j'y ai cru, quand bien même c'est complètement tiré par les cheveux. Parce que comme tu l'as dit, cette espèce de tuerie de masse avec des nazis.
Ça, pourquoi pas.
En fait, tout est un peu absurde, tout est un peu extravagant, tout est un peu too much, mais je trouve que ça fonctionne complètement dans la manière dont il le fait. Et pour moi, c'est juste du cinéma qui mérite de vivre en salle. La bande-son, je l'ai trouvé absolument génial. Je trouve que c'est extrêmement rythmé. En fait, aussi, c'est que c'est un film qui dure quand même 2 heures, qui pourrait être casse-gueule sur le propos, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, qu'il y a un espèce de chapitrage un peu étrange. Et mine de rien, en fait, je trouve que ça tient et que ça fonctionne complètement, et que c'est un objet filmique que je trouve absolument génial et que j'aimerais revoir aussi, juste pour l'analyser et pour potentiellement comprendre aussi plus de choses sur qu'est-ce que lui a voulu mettre justement dans cette mise en scène, etc., que j'ai pas forcément capté la première fois, mais que j'ai trouvé absolument brillant. Enfin voilà, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de 2024 pour l'instant.
On aurait dû le voir ensemble. sur lui-même.
Ouais. Non, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est agréable d'entendre de l'emballement, genre le meilleur film 2024 sur deux films différents du programme. Enfin, c'est la révolution.
Pourquoi tu me
regardes
en disant ça, Elisabeth Fourgadier même, parce que.
Mais j'aime bien quand il y a du débat aussi allemand. Romane, est-ce que tu... Oui, ton sourire m'en dit long. Tu es aussi emballée qu'il mène par ce sweetie.
Oui, peut-être un tout petit peu moins. Parce que
c'est
là,
c'est
j'allais dire que comment passer après ça. Non, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce film. Je dirais pas que c'est le meilleur que j'ai vu depuis 2024. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un ovni, en fait. Que pour ça, je le recommande. Ça me rend vraiment très curieuse de savoir ce qu'il va faire ensuite, lui, comme, pour le coup, réalisateur. En fait, c'est un film qui est extrêmement dense quand même. Ça donne l'impression d'avoir vécu un peu 8 vies en sortant de la salle de cinéma, et c'est assez agréable, je dois dire. Moi, je dirais que c'était vraiment d'abord effectivement une expérience de Sweeties. C'est ça qui est génial, c'est que ça pourrait être que ça, mais c'est là où moi je suis pas d'accord avec toi, Alban. Je trouve que ça reste quand même, c'est tellement plus que juste une expérience. En tout cas, moi j'ai réussi à rentrer dans autre chose que juste un truc formel qui proposait, qui évidemment est il y a une vraie prouesse de mise en scène et une créativité, puisque le film est un espèce de caméléon. Ça passe de l'animation, comédie musicale, teenage movie, film hollywoodien, thriller, etc., et pour finalement être un espèce de conte. Enfin, donc c'est vrai que à regarder, c'est assez fascinant, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus que ça. Bon, comme on l'a dit déjà sur effectivement, moi je trouve, sur le mythe de la beauté, sur ce que ça raconte de la projection du monde et d'un personnage qui subit en fait tous les trucs qui lui arrivent. Et je trouve ça assez fou d'ailleurs, parce que j'ai jamais vraiment vu, je pense, un film qui s'articule autour d'un personnage qui est passif en fait, d'une certaine manière, même si elle manipule. En tout cas, elle n'est pas complètement passive, mais en tout cas il y a un truc où c'est parce que justement elle est belle, etc., qu'il y a tout un espèce de, en tout cas on arrive à suivre le rythme fonctionne. Oui, et le rythme fonctionne alors que son personnage est pas évident, je trouve, pour suivre l'histoire. Et je trouve que ça fait quand même le portrait d'un personnage, mais d'une jeunesse américaine qui s'ennuie profondément, et ça raconte très bien cette espèce de passage à l'âge adulte où on va découvrir le monde d'une manière aussi brutale que radicale. Moi je trouve qu'on sent un réel besoin d'aventure en fait chez ce personnage, alors que voilà, encore une fois, elle est assez passive dans le film, parce que c'est surtout la projection des autres qui compte. Voilà. Et bien sûr, ça raconte quand même une vision tellement cynique des États-Unis, qui évidemment était exagérée et finalement peut-être pas tant que ça, mais qui transpire un espèce de mal-être et un besoin urgent et bordélique du coup de faire un état des lieux qui pourtant est assez réaliste, je trouve, au final. Donc moi je recommande plutôt The Sweetest, au moins pour encore une fois son expérience et ses acteurs, quoi.
Moi, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, je suis vraiment d'accord, et c'est vrai que j'avais pas eu cette grille de lecture, mais maintenant que tu le dis, ça paraît évident, sur justement ce rôle passif de l'actrice principale et sur la manière dont c'est par ce rôle-là que l'histoire va pouvoir continuer, va pouvoir avancer.
Au gré donc des projections des autres personnages.
Exactement. Et c'est vrai que c'est un point qui est super intéressant dans le film, et que si j'avais préparé ma chronique, j'aurais pu peut-être essayer de le voir.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais voilà, non, c'est vraiment bien. Après, sur le côté ovni du film et sur le côté une jeunesse qui s'ennuie, c'est quelque chose qu'on a vu mille fois. En fait, ils s'ennuient tous de la même façon depuis 20 ans dans le cinéma indépendant américain. c'est vrai.
Moins au Québec et en Angleterre où il y a des prises de risques.
Et sur le côté ovni, je trouve que ça reste quand même très balisé, c'est-à-dire que c'est quand même des images, à part sur le travail sur le son et sur la vidéo parfois, notamment au début du film, mais sinon ça reste très balisé, c'est des choses qu'on a déjà vues au cinéma, je trouve.
Il fait une tête qui veut dire cause toujours.
Tu adores ce film, voilà, c'est comme ça.
C'est très bien qu'il y ait des gens qui aiment The Sweetest et puis d'autres qui soient un peu plus mitigés. Comme Alban, on vous encourage à le voir et à vous faire un avis sur ce film ovni. Et maintenant, la seule série au programme ce soir, c'est Shogun de Justin Marks et Rachel Kondo.
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
Shogun, qui est donc une série américaine.
Alors, c'est techniquement une mini-série, parce qu'il n'y aura
pas
de saison 2.
Une mini-série, effectivement, adaptée d'une précédente série des années 80, elle-même adaptée, toutes les deux sont des adaptations d'un livre,
roman,
un roman historique.
Un roman historique, Yuri, un pavé de 1000 pages qui s'appelle également Shogun.
Que tu as lu pour préparer cette chronique.
Bien sûr, je fais souvent ça, je lis tous les livres qui sortent.
C'est une émission culturelle sérieuse. Voilà, c'est
tout. Je vois par contre pas les films. Donc Shogun, qu'est-ce que ça raconte ? On est dans le Japon féodal en 1600. C'est une période où le Japon est complètement, comment dire, déconnecté du monde extérieur. Et c'est très très insulaire. Il y a un côté vraiment renfermé sur lui-même. Et le seul pays qui a le droit de commercer avec le Japon à l'époque, c'est le Portugal. Et ils gardent ce secret de manière assez farouche, parce qu'ils ont accès à des routes que les autres pays ne connaissent pas. Je dis tout ça pourquoi ? Parce que c'est une série qui est très très géopolitique, en tout cas au début. C'est le point de départ, c'est que le Taiko, donc l'empereur plus ou moins, pour simplifier... parce que si on rentre dans le système féodal japonais, vient de mourir.
L'émission dure deux heures.
Il a nommé 5 régents en attendant que son fils soit en âge d'être lui-même le plus puissant des Pokémon. Et du coup, ces cinq régents du coup se partagent le pouvoir d'une manière plus ou moins violente. Et on va suivre l'un d'eux qui va récupérer une cargaison d'armes arrivée par un bateau. Par un bateau anglais, c'est
dans
très
lequel
compliqué.
Dans lequel il y a un pirate anglais,
va lui-même devenir plus ou moins un personnage important à la cour de Toronaga. Voilà, c'était pour vous poser juste le point de départ.
C'est... Et Mariko dans tout ça.
Alors, je vais commencer par ça. Moi, c'est une série qui m'a surpris par sa complexité quand même. Il y a un truc où la série commence, les Japonais parlent vraiment japonais, donc il y a un côté où vraiment on est ancré dans cet univers là on n'est pas chez
oui, il parle même un japonais ancien, il parle même pas le japonais actuel,
donc c'est quand même une gageure, enfin
très précis,
c'est quand même un truc de faire une série blockbuster budget Game of Thrones en disant non mais vous savez quoi, on va parler du japonais ancien et ça va être comme ça et vous allez lire des sous-titres. Moi j'ai trouvé ça déjà premièrement en tant que projet extrêmement réjouissant. Ensuite, alors moi j'ai pas vu toute la série parce qu'elle est pas encore disponible intégralement, mais juste en termes de facture visuelle, moi c'est un truc le plus impressionnant que j'ai vu en série depuis super longtemps. Dans les premiers épisodes il y a une scène justement de navigation et de plus ou moins de crash,
de tempête
qui est exceptionnelle. C'est à dire qu'il y a un côté de cadrage, de mise en scène, de ce que ça raconte, et encore une fois c'est une série qui est extrêmement bien documentée. C'est à dire que si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire du Japon, il y a quand même en fait chaque, c'est un peu un roman historique à clé, du coup une série historique à clé, chaque personnage correspond à quelqu'un qui a plus ou moins existé, donc ils n'ont pas tous vraiment existé en même temps, au même endroit, mais en tout cas tout ce contexte là est assez précis, très documenté, et avec une du coup qui arrive à tirer sa force de son contexte historique et d'en faire vraiment une narration en effet très blockbuster grand public, mais avec des enjeux qui sont vraiment liés à la société féodale japonaise, et du coup qui par conséquent nous permettent de manière assez intéressante aussi par ce personnage qui a vraiment existé de l'anglais qui est devenu samouraï, de rentrer aussi dans cet univers là qui à l'époque est très très inconnu, qui nous est très très inconnu et qui du coup nous permet d'en savoir un peu plus de ce point de vue là. Tout ça est porté par un casting vraiment brillant, notamment l'acteur qui joue Toronaga est vraiment très très bon, l'anglais un peu moins quand même. Il a des yeux extrêmement étranges. Je pense que c'est des lentilles, mais c'est très très perturbant.
Il a l'air très drogué en fait.
C'est un Aaron Taylor Johnson Wish un peu.
Ouais, vraiment.
Déjà lui-même un acteur Wish pour ma part.
Et par ailleurs, en termes de direction artistique, mon seul point faible, ce serait quand même un peu la musique. Parce que bon, descendre la gamme pentatonique avec du synthé, c'est quand même. Bon, on a fait plus original. Mais globalement, ça reste quand même de très très bonne facture. C'est très surprenant. Si on aime en fait les récits épiques historiques, on en a vraiment pour son argent, donc non vous voyez Shogun, c'est super.
Mention spéciale au costume et au chapeau.
Il y a un game de chapeau qui est incroyable,
pas aussi fort quand même que dans les séries coréennes comme Kingdom, où là vraiment le game de chapeau est supérieur. Là c'est solide,
mais on est supérieur à Django en termes de chapeau,
oui,
qui avait déjà un bon game de chapeau. Alban, alors ce Shogun,
Eh ben, je suis totalement d'accord avec Yuri. Quand j'ai lancé le premier épisode, j'avais envie de voir du spectacle et j'ai vu du spectacle. Enfin, on passe vraiment un bon moment. Il n'y a pas vraiment d'enjeux particuliers ou d'attentes particulières par rapport à cette série. C'est qu'on nous vend une série, un gros blockbuster avec des gros effets spéciaux, avec des gros décors et avec des voilà.
Et qui cartonne. Et
c'est super.
Moi, c'est étonnant que ça cartonne. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que c'est très
très niche.
Justement, pour rajouter à ce que tu disais, effectivement, c'est un petit peu complexe. Moi, je rajoutais aussi que c'est ultra violent. Enfin, il y a quand même des moments dans la... qu'on voit pas, mais
c'est
qu'on
pas
devine.
C'est pas graphiquement violent. En revanche, c'est pas aussi graphique que Game of Thrones. C'est pas gore. Mais par contre, il se passe des choses vraiment très énervées.
On parle quand même de gens qui sont ébouillantés, on tue un bébé. C'est super violent. Et moi, c'est ce qui m'a plu en fait. C'est-à-dire que je m'attendais parfois à un truc un peu trop lisse, un peu trop
américain.
Ouais. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est un peu un ovni en fait cette série. Et on s'attend.
Cette fois-ci, c'est un ovni.
Oui, oui.
Contrairement à Sweetest.
Je vois le regard de d'Imen sur moi là. C'est. Et non. Et franchement, c'est, je trouve qu'on, à part effectivement cet acteur anglais. On s'attache au personnage tout de suite.
Ouais.
Moi, j'ai envie de savoir ce que devient l'empereur qu'on va suivre le plus parmi les cinq, etc. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose de d'à la fois touchant, d'à la fois stimulant. Ça m'a entertainé pendant 1h10 de pilote, parce que j'ai vu que le pilote. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une série que je recommande, parce que j'ai pas l'habitude non plus, moi, en tant que critique dans cette émission, de voir du grand spectacle, parce que vous ruez tous sur les blockbusters toutes les semaines. Et j'étais content de voir ça.
Qu'est-ce que ça dit de nous?
Non, mais ça m'a vraiment plu. J'ai hâte de découvrir la suite, en fait, vraiment. C'est rare quand ça fait ça.
Alors, Laurent, toi, t'as une thèse en Japon féodal ?
Non, pas du tout.
T'es juste un weeb.
Je suis juste un weeb.
Donc,
en réalité, j'y connais pas grand chose.
Fais semblant.
Je connais 2-3 trucs, mais je fais semblant. Oui, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, depuis Game of Thrones, on a tout un tas de Game of Thrones wannabe qui poussent un peu à droite à gauche. Il y a des tas de séries comme ça qui essayent.
Parce qu'eux n'ont pas essayé, en fait.
Il y a des tas de. C'est pour ça que c'est bien. Je sais pas bien, je pense qu'il y a des tas de séries qui se veulent un peu des Game of Thrones, de quelque chose. La seule autre série, à part Shogun, que j'ai beaucoup aimé, que je citerai et que j'ai bien aimé dans le genre, c'est Black Sails, qui est un peu Game of Thrones chez les pirates, que moi j'ai bien aimé.
Mais qui est antérieur à Game of Thrones, non ? Ou en même temps ?
Non, je crois que c'est un petit peu en même temps, mais je crois que c'est un petit peu après quand même.
Ok.
Et donc celle-là, qui arrive finalement assez tardivement après Game of Thrones, et qui prend un pari, je trouve, assez rude de faire du Japon, mais du vrai Japon, quoi. Genre Silence de commandeur de Scorsese.
Mais sans les accents ridicules.
Où c'est pas sympa, où ça parle japonais, où c'est violent. Enfin, c'est à l'image de ce que la société féodale japonaise était, c'est-à-dire très violente. C'est des choses qu'on a un peu oubliées, d'ailleurs. Enfin, nous, en Europe, on a plus des sociétés aussi violentes depuis un bon moment déjà, mais au Japon, ça continuait. C'était très guerrier, très violent, avec une hiérarchie extrêmement lourde. Et je trouve que tout ça est très bien mis en scène et très bien fait. Parce que c'est jamais grandiloquent et absurde et graphique.
Il n'y a pas un regard exotique non plus par rapport à ça. Même dans cette société extrêmement violente, avec des codes qu'on ne comprend pas forcément tout de suite,
il n'y a pas d'orientalisme bébête. On est quand même sur un truc vraiment bien fait. Derrière, bon, on a toutes ces histoires politiques qui sont très complexes, qu'on arrive à suivre un peu à droite à gauche. Pas toujours parfaitement bien. Comme moi, j'ai vu tous les épisodes. Il y a quand même des moments qui sont un peu inférieurs, genre notamment le dernier épisode, celui qui est sorti hier, il est quand même un peu plus léger. Bon, mais il y a une vraie tentative de à la fois de raconter quelque chose et de le faire en effet avec du grand spectacle, avec surtout une manière d'essayer de nous amener à ça. Dans les détails, dans la complexité, sans essayer ni d'édulcorer, ni d'abêtir ce qui a pu se passer, mais tout en le rendant quand même.
C'est devenu rare.
Tout en le rendant quand même très romanesque.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a quand même,
c'est
quand même
épique,
un truc.
C'est quand même très romanesque.
Je pense que c'est très romancé. Moi, je connais pas bien ces histoires de cette époque-là, mais je trouve que c'est. Une vraie belle réussite, et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que le livre est probablement beaucoup plus touffu, et du coup ça donne envie un peu de lire le livre si on a aimé la série. Donc moi, en tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser au livre, parce que je pense que ça en dit encore plus et que ça va encore plus loin dans le détail de l'univers, des personnages, de tout ça, qui est, malgré la série qui est quand même assez longue, essaye de le faire tout en restant pas ennuyeux et en choisissant, en fait, je pense, ces parties à détailler, parce qu'il y en a trop. Et je trouve qu'on ressent ça assez bien dans la série. Donc pour le moment, en tout cas, il n'y a que 5 épisodes qui sont sortis.
Ouais, sur une dizaine.
Donc, on attend la suite. On attend la suite et j'espère que ça va, contrairement au dernier épisode qui est vraiment plus sur un truc un peu plus mélo, sur des enjeux un peu plus personnels, on va revenir sur de la politique parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Et sur du spectacle, je pense, en fin de saison.
Et sur des spectacles. Mais honnêtement.
Déjà, au début, ils ont bien donné quand même. Hein.
Ouais. Je trouve que dans le genre, c'est assez. C'est probablement ce qui se fait de mieux, je trouve. En tout cas, dans le Game of Thrones-like, c'est vraiment le top niveau. Quoi.
Bon, et bien une très bonne semaine. On vous recommande tout, même le Stéphane Brisé. Que s'est-il passé? On remercie Yon d'avoir réalisé l'émission. On se dit à la semaine prochaine en espérant un programme à la hauteur.